Je me tourne maintenant vers vous, Madame Cura. Vous dirigez le service des affaires juridiques du rectorat et vous avez accepté là de répondre à certaines de nos questions. Pourrait-on commencer par faire un point sur les chartes établissements ?
Oui, bonjour Adeline, tout à fait. Alors, avant d'évoquer la charte d'utilisation de l'Internet dans les établissements scolaires, je voudrais parler brièvement de la circulaire du 18 février 2004 relative à l'usage de l'Internet dans le cadre pédagogique et la protection des mineurs, laquelle circulaire a précisé, parmi les mesures devant accompagner le développement de l'usage de l'Internet dans les établissements scolaires, celle fondamentale liée à la formation et la sensibilisation des élèves au risque d'Internet. Ces deux objectifs sont a priori atteints grâce à l'élaboration d'une charte d'usage d'éthique et d'Internet dans chaque établissement scolaire. Quel est le contenu de la charte ? Cette charte a tout simplement pour objet de fixer les droits et obligations des utilisateurs comme ceux de l'établissement scolaire en sa qualité de fournisseur du service. Les droits et obligations des utilisateurs, quels sont-ils ? Eh bien, il s'agira de préserver l'intégrité des services proposés, par exemple, ou d'utiliser les ressources pour les activités pédagogiques et non pour un objectif personnel, ou encore, bien sûr, de respecter les personnes et notamment de ne pas commettre d'atteinte à la vie privée ou au secret de la correspondance et de ne pas commettre de faits relevant de l'injure ou de la diffamation. Quant aux droits et aux obligations de l'établissement scolaire, eh bien, ils sont liés au droit d'accès, au respect de la vie privée et de la confidentialité des informations personnelles. Il convient également à ce que cette charte décrive les moyens de surveillance et de filtrage mis en place et mentionne les sanctions prévues aux éventuels manquements aux obligations des utilisateurs. Vous l'avez compris, cette charte d'utilisation de l'Internet permet donc de responsabiliser tous les acteurs et usagers des ressources TIC. De fait de la grande diversité d'utilisation de ces ressources au sein des établissements scolaires, la charte apparaît comme être un complément indispensable de la réglementation. Pour l'information des chefs d'établissement, je signale qu'un modèle de charte à adapter selon la situation de chaque établissement est proposé par le ministère de l'Éducation nationale. Venons-en au statut juridique de cette charte. Intégrée au règlement intérieur de l'établissement, qui est un acte à dimension normative, la charte d'utilisation d'éthique acquiert ainsi une valeur réglementaire, c'est-à-dire qu'elle a vocation à s'opposer aux utilisateurs. Son processus d'élaboration, comme tout processus de révision de la charte, obéira donc à la même procédure prévue pour l'adoption du règlement intérieur. Quelle est la procédure prévue donc pour l'élaboration ou la révision de la charte d'utilisation d'éthique ? En premier lieu, le projet de charte ou de révision fera l'objet d'une large concertation au sein de la communauté éducative. Pour les lycées, le projet est soumis au conseil des délégués de la vie lycéenne, obligatoirement consulté, je le rappelle, pour l'élaboration du règlement intérieur. Le projet sera ensuite instruit par la commission permanente, émanation du conseil d'administration de l'établissement, avant donc d'être soumis au vote du conseil d'administration. Enfin, la délibération relative au projet de charte ou de révision de la charte est soumise à l'obligation de transmission à l'autorité académique qui, en sa qualité d'autorité de contrôle de l'égalité, exercera donc un contrôle sur cette délibération. Une fois cette procédure d'adoption ou de révision de la charte respectée, la charte devra donc être portée à la connaissance des utilisateurs, comme des membres de la communauté éducative. Pour les utilisateurs, il est recommandé de prévoir que la charte soit signée par les élèves et leurs représentants légaux si les élèves sont mineurs. Enfin, afin de favoriser la plus grande sensibilisation à leurs obligations d'utilisateur, la charte pourra être commentée par l'enseignant avant une activité pédagogique utilisant les technologies de l'information et de la communication. De la même façon, cette charte pourra également être affichée dans les lieux de passage des élèves et ou lorsque les élèves se connectent sur l'ordinateur.
Et la connaissance de cette charte fait d'ailleurs l'objet d'un item du B2I. Les élèves doivent connaître cette charte. Alors, je vous soumets maintenant une autre question. Un chef d'établissement, Madame Cura, peut-il surveiller l'historique de navigation des élèves et s'y référer pour prendre une sanction lorsqu'il réalise qu'un élève a surfé sur un site interdit, par exemple ?
Alors, en principe, je rappelle qu'afin de limiter les risques d'exposer les élèves à des contenus susceptibles d'avoir des conséquences nocives sur eux, et dans le but de permettre un usage sécurisé de l'Internet, le chef d'établissement a l'obligation de mettre en place des outils permettant de filtrer l'information mise à disposition des élèves par un contrôle a priori interdisant l'accès à des sites jugés inappropriés. Mes collègues Alexandre et Christophe ont évoqué cette question précédemment. Par ailleurs, je rappelle que la charte d'utilisation a pour objet de sensibiliser les usagers en attirant leur attention sur les dangers à utiliser un service en ligne de manière incorrecte. À ce titre, la charte doit donc informer les utilisateurs des conditions dans lesquelles sont mises en place d'éventuels contrôles sur l'utilisation des services proposés. Outre cette description des contrôles, la charte prévoira les sanctions éventuellement données à la suite des contrôles. Enfin, je rappelle, au-delà de la charte, l'existence de l'article L511-1 du Code de l'éducation, qui rappelle les obligations des élèves consistant dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études. Ces obligations incluent, nous le savons, l'assiduité et surtout le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. Sur le fondement de ces dispositions, comme de la charte annexée au règlement intérieur, tout manquement d'un élève aux consignes données sur l'utilisation des ressources TIC peut donc être sanctionné. Le choix de la mesure sera bien sûr proportionné au manquement commis et à l'âge et la maturité de l'élève.
Alors, je vous soumets maintenant à un autre cas d'école, en quelque sorte. Imaginons qu'un méfait a été commis depuis un poste de l'établissement. Le chef d'établissement est-il responsable ici ? Et deuxième question que je vous soumets, est-ce que cette responsabilité va différer selon que le site utilisé pour commettre le méfait ait été ou non bloqué par le pare-feu ?
Alors, Aline, avant de répondre à ces questions, je souhaiterais rappeler certaines notions liées au secret des correspondances, liées aux forums de discussion et aux blogs ou chats qui peuvent être hébergés sur le site internet de l'établissement. Le secret des correspondances. En premier lieu, le code pénal protège tout type de correspondance, y compris celle émise par voie de télécommunication. Or, la jurisprudence a admis que le réseau internet et les services qu'il offre, notamment ceux de correspondance électronique, entrent dans le champ d'application de la législation sur les postes et télécommunications. En conséquence, ni le chef d'établissement, ni un enseignant ne saurait, sous peine de violer le secret des correspondances, consulter les messages reçus et émis par les élèves sur leur boîte à lettres électronique individuelle, même dans le cas où celle-ci est utilisée dans l'établissement scolaire. Seul le juge, a priori, a autorité pour faire ouvrir un courrier personnel. En revanche, rien ne s'oppose à ce qu'un chef d'établissement, qui soupçonne qu'un élève se rend coupable de détournement de finalité éducative de ce moyen de communication ou du non-respect de la charte d'utilisation, suspende le fonctionnement de ce service. Pour les forums de discussion, je vais rappeler un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a retenu la responsabilité du directeur de publication d'un service télématique comportant un forum de discussion et sur lesquels des messages anonymes d'incitation à la discrimination et d'apologie de crimes contre l'humanité avaient été diffusés. En conséquence de cet arrêt, il convient qu'une vigilance accrue des chefs d'établissement s'impose dans l'hypothèse où le site internet de l'établissement comporte des forums de discussion. Ce contrôle doit passer par la mise en place de dispositifs techniques obligeant les participants à un forum de procéder à une inscription permettant, le cas échéant, de les identifier et de suivre les étapes de la discussion pour effacer, en tant que de besoin, les propos susceptibles de contrevenir à l'ordre public. Enfin, les blogs ou les chats hébergés sur le site internet de l'établissement scolaire, qui ne constituent en aucun cas une obligation légale. Dans la mesure où la responsabilité des propos et contenus insérés dans un blog relève de la responsabilité de leur auteur, il est recommandé, là encore, d'adopter une charte d'utilisation qui décrira les règles de conduite à respecter et les comportements proscrits sur un blog. Il apparaît en effet utile de rappeler aux blogueurs les responsabilités qui leur incombent en matière du respect du droit de la vie privée garanti par l'article 9 du Code civil, ainsi que du droit de la propriété intellectuelle et les peines encourues par les infractions telles la diffamation, l'injure, l'incitation à la violence ou à la haine. S'agissant d'élèves de collège ou de lycée, le non-respect du droit à la vie privée, qui serait par exemple caractérisé par la divulgation d'images ou de paroles d'une personne sans son consentement, est susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire pouvant se traduire par une exclusion définitive de l'établissement. Ceci étant dit, deux fondements légaux peuvent justifier que la responsabilité du chef d'établissement ou encore de l'enseignant puisse être engagée dans le cas de figure que vous m'avez présenté. L'obligation de surveillance, d'abord, des élèves pendant le temps scolaire s'impose, vous le savez, Adeline, vous êtes enseignante, au personnel de l'établissement sous l'autorité du chef d'établissement. Et là, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de citer l'article L911-4 du Code de l'éducation qui prévoit pour les dommages causés par ou aux élèves qui leur sont confiés du fait de faute, imprudence ou négligence, la substitution de la responsabilité de l'État à celle des membres de l'enseignement public. Par ailleurs, pour les collèges et les lycées dotés de la personnalité juridique, le chef d'établissement ici présent à cette émission de radio ne me contredira pas, la responsabilité administrative incombe au chef d'établissement, qui, en tant que représentant légal de l'établissement, doit prendre toute disposition afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, le bon ordre, l'hygiène et la salubrité de l'établissement. C'est donc sur le fondement de ces deux obligations légales que responsabilité du chef d'établissement ou de l'enseignant pourront être éventuellement recherchées par la victime, en plus de celle de l'élève coupable de méfait lui-même, pour les cas de figure suivants. La responsabilité du chef d'établissement. Il est chargé, on le sait, de veiller d'une manière générale à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires. Ainsi, sa responsabilité pour défaillance dans l'organisation ou le fonctionnement du service implique nécessairement une faute, laquelle, à l'origine du dommage causé à l'élève ou par l'élève, est susceptible d'être réparée. En l'espèce, le chef d'établissement, en tant que garant de la sécurité, pourrait donc voir sa responsabilité engagée dans l'hypothèse où il n'aurait pas fait installer un pare-feu, empêchant les élèves de se connecter éventuellement à des sites prohibés. Ou s'il était encore démontré que les pare-feux n'avaient pas fait l'objet d'une mise à jour périodique, laissant ainsi la possibilité aux usagers de se connecter à des plateformes normalement non accessibles. Si des dispositifs de filtrage ont bien été mis en œuvre, je souhaite renvoyer les auditeurs, encore une fois, à la lecture de la circulaire du 18 février 2004, laquelle précise qu'aussi performants que puissent être les dispositifs de filtrage, ils demandent à être accompagnés de mesures de formation, de sensibilisation et de responsabilisation de l'ensemble des acteurs concernés. Une solution efficace dans le domaine de la sécurité ne peut bien sûr se concevoir sans l'implication des utilisateurs. Les usagers, les personnels de l'éducation nationale, les élèves doivent être informés des spécificités de l'Internet. Nous en revenons, là encore, vous l'avez compris, à la charte d'utilisation d'Internet, qui, ayant pour objet de responsabiliser les élèves sur l'utilisation d'Internet, permettra au chef d'établissement d'atténuer, voire d'écarter sa responsabilité en la matière. En effet, en signant cette charte, les élèves sont réputés être avertis des tenants et des aboutissants régissant l'utilisation d'Internet et s'engagent donc à l'utiliser dans le respect des règles qui le régissent. Ainsi, ils ne peuvent se prévaloir d'une quelconque ignorance dans le domaine. En ce qui concerne maintenant la responsabilité de l'enseignant, il faudrait, pour que cette responsabilité soit engagée, prouver qu'il y a eu une faute commise par l'enseignant en démontrant un défaut de surveillance avéré de la part de ce dernier. Défaut de surveillance avéré, ce serait par exemple le cas de l'enseignant qui quitte sa salle de cours pour aller passer un coup de téléphone personnel. Cette responsabilité n'empêcherait pas, bien sûr, une action contre l'élève dans l'hypothèse où le juge admettrait que le jeune avait une capacité de discernement suffisante pour mesurer les conséquences de son action, hein, les conséquences de son méfait. Si le défaut de surveillance est démontré, mais que la faute n'est pas détachable du service, là nous sommes dans le cas, par exemple, d'un effectif d'élèves trop important pour que la surveillance puisse être assurée, excusez-moi, par un seul enseignant. Eh bien là, c'est la responsabilité du chef de l'établissement qui pourrait être engagée sur le fondement d'un défaut d'organisation du service. Avec toujours, hein, je le rappelle, la possibilité d'engager celle de l'élève dans l'hypothèse, dès lors qu'il avait cette capacité de discernement pour mesurer les conséquences de son action. Enfin, si aucune faute du professeur ne peut être constatée et si toutes les précautions de sécurité ont été mises en œuvre par l'Éducation nationale et le chef d'établissement pour l'usage des outils informatiques, l'État ne saurait déclarer responsable du méfait commis par l'élève.
Alors, vous avez cité de nombreux textes de référence, hein, et peut-être que les auditeurs n'ont pas eu le temps de les noter. Nous les retranscrirons sans doute sur le site de la web radio, hein, pour que les auditeurs puissent s'y reporter ultérieurement. Alors, imaginons un autre cas d'école, une cabale, hein, qui serait fomentée par des élèves mal intentionnés à l'encontre d'un enseignant via un moyen de communication numérique, quel qu'il soit, réseau social, forum, blog. Quel est le recours pour l'enseignant ?
Alors, pas le recours, mais trois recours, Adeline, qui sont les suivants. L'enseignant, objet d'une cabale, exercée donc à son encontre, va, dans un premier temps, faire un dépôt de plainte auprès des autorités judiciaires, donc commissariat de police ou gendarmerie. Deuxième recours, l'enseignant demandera auprès de son administration à bénéficier de la protection statutaire du fonctionnaire. Qu'est-ce que la protection statutaire du fonctionnaire ? Cette protection trouve son fondement légal dans l'article 11 de la loi du 13 juillet 83 portant droits et obligations des fonctionnaires, lequel article prévoit que la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages survenus à l'occasion de leurs fonctions. Et la collectivité publique est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Quand un fonctionnaire victime souhaite bénéficier de l'application de ces dispositions, que doit-il faire ? Tout d'abord, il informera son supérieur hiérarchique. Ensuite, il déposera plainte. Et enfin, il demandera au recteur de l'académie, par la voie hiérarchique, à bénéficier de cette protection juridique, en joignant à sa demande la copie du dépôt de plainte. Un rapport circonstancié du supérieur hiérarchique permettant d'établir un lien de causalité entre le préjudice subi et la qualité du fonctionnaire sera transmis à l'occasion de cette demande, ainsi que tout document présumant de ce lien, hein, du type aveu, témoignage et preuve. Quelles sont les conséquences de la protection statutaire dès lors qu'elle a accordé aux fonctionnaires victimes de cabale ? Eh bien, en fonction de la nature de l'agression, la protection statutaire consiste en un conseil juridique pour l'accomplissement des démarches auprès des services judiciaires, également au mandatement d'un avocat pour qu'il apporte à l'agent l'assistance nécessaire en cas d'une éventuelle suite judiciaire que seul le procureur de la République, bien sûr, peut décider de donner à la plainte. Et enfin, en un remboursement par l'État des éventuels dommages résultant de l'agression subie. Enfin, le troisième recours de l'enseignant, c'est tout simplement de s'adresser auprès de son chef d'établissement, à qui il demandera d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de l'élève ayant donc commis cette cabale. Donc, je rappelle que les sanctions disciplinaires se définissent comme des mesures coercitives destinées à réprimer les manquements les plus graves au règlement intérieur, avec une incidence variable sur la scolarité de l'élève. Pour mémoire, je citerai donc l'article R511-13 du Code de l'éducation qui établit, qui fixe plus exactement, 6 sanctions classées par ordre croissant. L'avertissement, le blâme, la mesure de responsabilisation, l'exclusion temporaire de la classe, l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes d'une durée maximum de 8 jours, l'exclusion définitive. Le choix du prononcé de la mesure sera, encore une fois, proportionné au manquement commis.
Je vous remercie pour toutes ces explications très claires. Je vais vous poser une dernière question un petit peu plus légère. Vous avez tous remarqué que nos élèves avaient des téléphones portables en permanence sur eux. La preuve, écoutez.
À l'école, je le laisse dans la poche de mon manteau qui est à côté de moi. Je le mets en mode silencieux parce que sinon le prof entend quand je reçois un message. Mais la plupart du temps, je le garde à la fin du cours si j'ai des textos ou des SMS.
Non, alors moi, c'est rare que j'emmène mon téléphone en cours, en fait, parce que, j'ai pas le droit, et que, en plus, bon, si on se le fait prendre, c'est les parents doivent aller le récupérer chez le proviseur, donc ça marche pas beaucoup.
En réalité, quand on est enseignant en fonction, on sait bien que les élèves gardent leur téléphone portable à proximité, dans la poche, dans la trousse, ce n'est jamais loin. Et c'est vrai que c'est parfois, ça nous amène parfois à gérer des situations un peu complexes. Alors, Madame Cura, quid de l'interdiction des téléphones portables dans les établissements scolaires ?
Pardonnez-moi, Adeline, de encore me référer au Code de l'éducation et de citer de nouveau un article. L'article L511-5, qui prévoit que dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d'un téléphone mobile est interdite. Cette disposition relative à l'usage de ces appareils au sein de certains établissements scolaires ne pose pas, vous l'avez compris, d'interdiction générale et absolue de l'introduction des portables au sein de l'établissement scolaire. En effet, cet appareil ne peut être qualifié en lui-même de dangereux ou de toxique. C'est son utilisation qui doit être réglementée. Encore une fois, il incombe donc à chaque établissement de définir dans son règlement intérieur les modalités pratiques de l'usage du téléphone portable. Par exemple, en interdire l'utilisation pendant les séquences d'enseignement et l'autoriser pendant les récréations. Le règlement intérieur, je le précise, devra également prévoir les sanctions applicables au manquement ou aux dérives de l'utilisation de ces appareils. Enfin, la confiscation, qui ne peut être que temporaire, du téléphone portable, ne paraît possible que dans l'hypothèse d'un usage de ce dernier perturbant le bon fonctionnement de l'activité d'enseignement. En effet, confisquer d'une façon trop longue un téléphone mobile porterait atteinte au droit de la propriété.
Merci beaucoup, Madame Cura, pour toutes ces informations essentielles. Alors, on le voit bien, des préoccupations nouvelles ont vu le jour et j'imagine très bien que c'est un dossier particulièrement vaste que la responsabilité numérique et qui exige de la part de votre service une veille continue et je dirais presque soutenue.